Alors, eh bien, on vient de le chanter abondamment. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et par sa résurrection, il nous promet, à nous croyant en lui, que nous ressusciterons aussi avec lui, dans la gloire. Mais il n'y a pas que les croyants qui vont ressusciter. En fait, tous les hommes de tous les temps vont ressusciter également. Et j'aimerais prendre un premier verset qui nous parle de cela dans le livre du prophète Daniel. À la fin du livre du prophète Daniel, chapitre 12, et simplement le verset 2, nous dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Et la Bible, quand elle parle de dormir, elle nous parle de la mort, hein. Voilà, c'est comme si on est mort. Hein. Et quand il est parlé du réveil, eh bien, il s'agit de la résurrection. Et ainsi, les hommes qui dorment vont se réveiller. Ils vont tous se réveiller. Hein. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Et on voit donc que la résurrection, elle n'est pas réservée exclusivement aux justes, mais aussi aux injustes. Hein. Dieu nous parle dans les Écritures de la première et la deuxième résurrection. La première résurrection, eh bien, c'est celle qui est pour la vie éternelle. Et la deuxième résurrection, c'est celle qui est pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Et certains, eh bien, auront part à la première, et puis d'autres, les autres, auront part à la seconde. Et la résurrection, c'est vraiment le témoignage physique d'une transformation qui s'opère dans tout l'être. Puisque c'est le passage de la mort à la vie, c'est le recouvrement de la vie, mais pas seulement de la vie telle qu'elle était avant de mourir, mais d'une nouvelle vie, une vie transformée, une vie différente, la vie éternelle. Et une belle image de la résurrection, c'est la chenille qui devient une chrysalide, et puis qui renaît hein, pour devenir un papillon et s'envoler dans le ciel. Au départ, la chenille rampe sur le sol, incapable de s'élever dans les airs, et puis elle tombe dans un état statique, elle dort, hein, en quelque sorte, dans son état de chrysalide. Et là, eh bien, il y a la transformation qui s'opère, et puis la voilà, magnifique, un papillon qui s'envole vers les cieux. Et ainsi sont les chrétiens, les croyants en Jésus-Christ. Par la conversion à Jésus-Christ, en son sacrifice, la foi en son sacrifice, eh bien, ils vont s'envoler à la rencontre de leur Dieu dans les airs, hein, glorifiés, transformés, magnifiques. Mais de même qu'il y a des papillons de jour, des papillons de lumière, hein, aux couleurs qui sont chatoyantes, hein, de même, il y a aussi des papillons nocturnes, on le sait, hein, des papillons qui vivent dans les ténèbres, des papillons qui ne sont pas très élégants. Et là, eh bien, on peut voir aussi une image, hein, finalement, des incrédules, qui aussi vont ressusciter, hein. Ils vont ressusciter, mais cette fois ça va être pour la honte, pour l'opprobre éternel, ça sera pour les ténèbres à jamais. Alors on va tous ressusciter, les uns pour la lumière, les autres pour les ténèbres et la honte. Et j'aimerais ce matin décrire ce que sera la première résurrection, la résurrection des justes, hein. La résurrection de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, hein. Ceux qui lui ont donné leur vie, parce que on voit que le Seigneur nous explique vraiment cette résurrection dans les Écritures et notamment dans le Nouveau Testament. Il veut que nous sachions ce qui nous attend à nous qui avons fait une rencontre qui est personnelle avec le Sauveur. Et autant la chenille, aussi belle soit-elle, elle n'égale pas en beauté ce qu'elle est quand elle est devenue un papillon, autant la résurrection va transformer notre corps et ça ressemblera plus en rien du tout à ce que nous sommes là maintenant sur la terre. Et on va prendre 1 Corinthiens 15, on va lire les versets 35 à 50. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et ici, l'apôtre Paul, fort de la révélation que Dieu lui a donnée, nous décrit ici dans ses propres mots ce que sera notre corps ressuscité, transformé. Et il souligne les caractéristiques qui feront que, eh bien, on aura vraiment un corps qui sera différent. De même qu'il n'y a plus rien à voir entre la chenille et le papillon qui s'envole vers le ciel, eh bien, notre corps sera complètement différent. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va perdre nos traits distinctifs. On va se reconnaître, hein, je crois, quand on sera au ciel, puisque les disciples ont pu aussi reconnaître le Seigneur. Mais on sera complètement changé. On va relire les versets 26 à 38. Paul dit, « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. » Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il lui donne un corps qui lui est propre. Et le premier attribut de ce corps ressuscité, ça va être la splendeur et l'éclat. Il va être splendide. En fait, rien ne paraît aujourd'hui. On ne paye pas de mine. Hein, quand on nous regarde, là, bof. Hein. On est comme le reste des hommes, nous sommes tous banals, hein, sans éclat. En fait, on est comme la graine. La petite graine n'a pas forcément une apparence éclatante. Hein. Qu'est-ce qu'une graine? Un petit corps qui ne laisse pas paraître ce qui est à l'intérieur. Mais une fois que c'est mis en terre, bien, la graine éclate, elle se décharne et puis elle renaît sous une autre forme, telle une belle fleur comme ça, chatoyante, brillante, hein, joyeuse. Quel point commun ou quelle ressemblance on peut voir entre la graine toute petite, marron là, ou beige, et puis la fleur qui est ouverte. Dieu fait l'un et l'autre, hein, et de l'un, eh bien, il fait ressortir l'autre. Hein. Et il en est de même pour le chrétien qui a cru en Jésus-Christ. Hein. Il va mourir comme un grain de blé. Mais ça va être pour ressusciter, revivre à nouveau, avec un corps qui sera rempli d'éclat et de splendeur. On va relire les versets 40 et 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et tout comme les étoiles dans le ciel brillent, chacune pour sa part, eh bien, nous aussi, on va briller, chacun pour notre part. Hein. Notre corps ressuscité ne va pas être terne, blafard, triste, inexpressif, mais il va être splendide, brillant, lumineux, de la vie qui se trouve en Dieu. Alors, eh bien, Paul compare cela à la différence entre les corps célestes et puis les corps terrestres. Hein. Et quelle différence il y a entre... Prenez un rocher dans les vignes, n'importe lequel, et puis le soleil. Il n'y a pas de différence. Hein. Si, il y a une grande différence. Hein. C'est le soleil brille de toute sa force, alors que le rocher, eh bien, lui, il est terne, il est sans éclat. Et c'est ainsi que nous sommes ici-bas. On est sans éclat, Mais Dieu, après, va nous faire briller de toute sa gloire. Dans l'Épître aux Colossiens, on lit cette parole qui est adressée aux chrétiens. Il dit « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et aujourd'hui, eh bien, on est caché avec Christ en Dieu. Ce que nous sommes est complètement invisible, ça ne se voit pas. C'est comme le germe de la vie qui est contenu dans le grain de blé. La vie est là, mais ça ne paraît pas avec toute sa force, la force du ressuscité. Mais quand Christ paraîtra, alors là, eh bien, on va paraître, nous aussi, avec lui, dans la gloire. Dans la gloire. Et on va briller pour la gloire de Dieu. Le prophète Daniel dit, on ne l'a pas lu, mais c'était le verset suivant, « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. » Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Nous, là, on va briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Quand Jésus est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, il est dit à ce moment-là que ses vêtements, donc les vêtements de Jésus et les vêtements d'Élie et de Moïse, devint resplendissant, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et notre traduction Louis II fait pas mention d'un mot qui se trouve dans le grec et qu'on retrouve dans la traduction Darby. Et c'est, je vous redonne le verset, c'est « Ses vêtements devinrent brillants d'une extrême blancheur comme de la neige ». En fait, le mot « neige » est dans le grec. Qu'est-ce qui est plus blanc que la neige ? Quand vous voyez la neige en pleine lumière sous le soleil, là, qu'est-ce qui est plus lumineux que la neige? Plus blanc que la neige. On le chante, j'imagine, c'est inspiré de ce verset, ce cantique. Notre cœur, notre corps sera d'une extrême blancheur, brillera d'un blanc éclatant. Si vous voulez prendre Matthieu 13, verset 43. Il dit, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les justes resplendiront comme le soleil. Le soleil, c'est la lumière la plus forte que nous connaissions sur la terre. On s'en rend vite compte quand, par exemple, il fait ce temps-là, vous allumez les lumières et tout, puis d'un seul coup, le soleil sort là, et puis voilà, votre lumière, vous dites, mais elle était insignifiante, quoi. C'était rien du tout, quoi. Parce qu'une fois que le soleil est sorti, ça remplit la pièce, ça inonde de lumière. On va briller comme des soleils. C'est quelque chose de merveilleux, quoi. Merveilleux. Briller comme des soleils. Si notre corps présent est comme une lanterne, notre corps céleste va être un temple transparent et lumineux de la lumière du Seigneur. Paul disait avec raison... Il disait, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ça va arriver le jour de la résurrection. Ça y est, hop, on va revêtir notre domicile céleste. Mais Paul dit qu'une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ça veut dire aussi certainement que, bien, on va différer les uns des autres. Certains vont briller, d'autres vont briller, mais pas pareil. Voilà, il y aura des différences, il y aura des nuances, pas avec la même force, le même éclat. Verset 42. Donc, on reprend 1 Corinthiens 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Et ici, on a un deuxième attribut de notre corps ressuscité, c'est l'incorruptibilité. Et nous avons ici-bas des corps corruptibles, c'est-à-dire des corps qui sont soumis à la décomposition, à la corruption. Nous mourons, notre corps s'altère, se détruit, on redevient poussière. On peut dire les premiers traits de cette corruptibilité, eh bien, ça se trouve dans le vieillissement des cellules. Les cellules meurent les unes après les autres, les neurones s'éteignent dès qu'on est sur la redescente. Et puis la vie finit par nous échapper, ça y est, l'âme quitte le corps et le corps, eh bien, commence à se décomposer. C'est la corruption. Mais lorsque les corps des saints ressusciteront, ils vont ressusciter incorruptibles. Il n'y aura plus de vieillissement, plus de mort, plus de corruption. Terminé. Regardez, on va lire juste versets 51 à 53. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc les morts, tous les chrétiens, les enfants de Dieu morts, vont ressusciter avec un corps incorruptible. Et puis les chrétiens vivants, eux, à la résurrection, quand Christ va revenir, là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devenir immortels, puisqu'ils sont vivants. Ils vont même pas passer par aucune corruption. Hein. Ils vont devenir immortels et incorruptibles. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui auront connu la corruption dans leur corps, et qui vont ressusciter, reprendre leur corps et devenir incorruptibles, et puis ceux qui seront vivants lors du retour de Jésus, qui deviendront immortels. Le nouveau corps que Dieu nous prépare ne meurt plus. Il demeure éternel à jamais, et plus rien ne pourra le détruire ou le corrompre. Le vieillissement ne sera plus, la mort ne sera plus. Troisième attribut de notre corps ressuscité, c'est la gloire. Et on voit ça, regardez verset 43. Le début, le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Et bien que nous soyons des créatures de Dieu, du fait de la chute, nous naissons méprisables, hein, c'est ce qu'il dit, semé méprisable. Darby, ici, a employé un autre mot, il a dit en déshonneur. Nous sommes en déshonneur. Alors, bien sûr, à l'image de David, on peut dire, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature merveilleuse. Et c'est vrai, hein, nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu nous a créés. Hein. Mais la chose, c'est que la créature a perdu beaucoup de sa merveille à la chute. Là, la merveille a été moins merveilleuse. Tout était au départ pur, beau, parfait avant la chute. L'homme était... il était une perfection de Dieu, hein, digne et belle dans l'œuvre du Créateur. Adam et Ève étaient nus, n'en avaient point honte, nous dit la Bible. Il n'y avait rien de mauvais, puisque tout ce que Dieu avait fait était bon. Tout était bon. Mais ensuite, Adam et Ève péchèrent, et là, eh bien, ils prirent conscience de leur nudité, et puis ils durent se cacher leur nudité, parce qu'ils étaient maintenant en déshonneur. Ils étaient maintenant, eh bien, méprisables. Et bien des choses qui sont devenues aujourd'hui le quotidien de la race humaine sont des choses que l'on cache, hein, qu'on ne veut pas montrer, des choses qui mettraient l'homme en déshonneur. Hein. Il y a maintenant un manque de gloire, un manque de dignité dans l'homme qui est certain à cause de la chute. Mais la dignité lui sera rendue au travers d'un nouveau corps, un corps transformé, un corps qui sera différent, un corps qui n'aura plus rien de honteux, un corps qui sera glorieux. Si vous voulez prendre Philippiens 3, versets 20 à 21. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et donc on voit ici le corps de notre humiliation va être transformé, sera semblable au corps de sa gloire, au corps de gloire de Jésus-Christ ressuscité. Quatrième attribut de notre corps ressuscité, ça va être la force. Verset 43, la suite. Le corps est semé infirme, il ressuscite plein de force. Et nous naissons infirmes ou faibles, comme d'autres traductions le disent. Un peu de fatigue, un courant d'air, et puis hop, voilà, de l'humidité, et puis on attrape froid, on doit se mettre au lit, on a besoin de guérir d'une maladie. L'humilité aussi, ça réveille les vieilles douleurs. Hein. Les articulations nous font souffrir. Les rhumatismes rappellent l'âge. Si on fait un tour de la salle, je suis sûr que chacun pourrait dire « Ah ben moi j'ai ça, moi aussi, hein, moi, j'ai ça. » On a tous hein, quelque chose, une faiblesse hein, qui fait que ben voilà, nous sommes semés infirmes. Et souvent, eh bien, les faiblesses se réveillent au fur et à mesure que les années passent. Hein. Le jeune, il se dit, oh, ça va, je suis en pleine santé. Hein. Et puis, quelques années passent, et puis après, ben, voilà, s'aperçoit qu'il a aussi hérédité des choses hein, de ses parents, de ses grands-parents. Nous sommes semés infirmes. Et la faiblesse est vraiment le propre de l'homme aussi, de par ses limitations. Nous sommes prisonniers de ce corps hein, et des lois qui régissent ce corps. Voulons-nous sauter en l'air et voler, et vite la pesanteur nous ramène sur terre? Non, c'est pas possible. Voulons-nous courir parce que nous sommes en retard, et puis on s'arrête, on est essoufflé, on n'arrive pas à aller plus loin? On veut travailler sans relâche, et puis on se met à bâiller, on n'en peut plus, on a besoin de sommeil. Ou bien on a faim, l'estomac se tord. Hein. On veut faire une activité où il y a du risque, et puis hop, on se blesse, on est obligé d'arrêter. Et en fait, on est fragile, on est faible. Mais le corps du juste, quand il va ressusciter, il sera plein de force, plein de force. Littéralement, il est écrit qu'il ressuscite en dynamis, dynamis qui a donné dynamite. Il ressuscite en dynamite, en puissance. Ce qui va nous caractériser, ça va être la puissance. On sera plus faible, plus malade. On n'aura plus de souffrance physique. Plus personne va se coincer le dos ou la jambe. Hein. Terminé, terminé. On va être plein de force, plein de puissance, plein de vitalité. Mais plus encore, nous n'aurons plus ces limites naturelles que nous vivons hein, dans notre corps. Hein. Comme nous serons régis et conduits uniquement par l'esprit, c'est l'esprit qui va dominer notre vie, eh bien, on va devenir aussi supérieur à la matière. On va transcender, dépasser la matière. Dieu va changer les propriétés de notre être. Hein. On pourra manger, comme Jésus a montré qu'il a mangé avec ses disciples. Mais ça ne va plus être vital, nécessaire, essentiel. Il est dit dans l'Apocalypse, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Donc les besoins vitaux ne seront plus terminés. Manger, ça sera vraiment quelque chose de secondaire, ou ça sera vraiment un moyen unique hein, de convivialité. Voilà. Comme on a partagé tout à l'heure, hein, le Seigneur va prendre le vin avec nous dans le ciel. Ben voilà, ça va être un moment ensemble. Là, et on aura peut-être des moments conviviaux. On s'invitera à manger. Mais ça ne sera plus parce qu'on a faim, simplement pour être ensemble, pour partager, pour s'aimer, pour glorifier notre Dieu. Et puis nous n'aurons plus de limitations dans la durée, dans le temps, puisque nous serons immortels dans l'éternité. Il est écrit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses premières ont disparu. Donc plus de souffrance, plus de douleur, les choses premières ont disparu. On pourra aussi marcher, si nous avons envie, hein, mais on ne va pas être limité dans l'espace. Terminé, plus de limites, hein. Devenant corps spirituel, il n'y aura plus de fatigue, plus d'apesanteur, plus de matière qui va nous retenir. Hein. Jésus ressuscité traversait la matière, il entrait dans des pièces qui étaient entièrement fermées, voilà, il était là, présent avec eux, et puis subitement il se mettait à manger. On se dit, mais comment c'est possible? Il traverse la matière et puis il prend de la matière, mais pourtant, ben voilà, hein. Dieu est tout puissant et Dieu va le faire, Dieu va nous donner un corps comme celui-là. On va voyager comme les anges, hein, comme l'éclair. Hein. Notre corps eh bien, sera léger, alerte, vif et éternel. Cinquième attribut de notre corps ressuscité, ça va être la spiritualité. Versets 44 à 47. 1 Corinthiens 15, versets 44 à 47. Le corps est semé naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit... Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Et nous ne naissons pas naturellement spirituels. Mais nous naissons naturellement animal. Ça, c'est comme ça. Hein. C'est le terme traduit ici par naturel dans nos Bibles. Hein. Le corps est semé animal ou psychikos, charnel, sensuel, psychikos. Un animal, c'est un être vivant qui est animé par une âme, psyché. Et s'il est dit que nous sommes semés corps animal, c'est que l'homme est d'une manière naturelle gouverné comme un animal par son âme. L'animal a une âme, mais il n'a pas d'esprit. Eh bien, l'homme naturel, il est gouverné par son âme. Du fait du péché, c'est ainsi que nous sommes semés. On se demande pourquoi l'homme, parfois, se comporte vraiment comme un animal. Voilà. Pourquoi, parfois, il agit hein, comme mu par des pulsions, des passions bestiales. C'est que l'homme est né animal. Ou bien on se demande pourquoi parfois les sentiments lui font perdre la raison. Pourquoi l'homme est aussi si attaché à la matière, concentré aux choses de la terre. Mais c'est parce qu'il est semé corps naturel ou animal. À cause du péché, nous naissons tous premièrement charnel, animal. Gouverné et conduit par notre corps et notre âme. Bien que nous possédons un esprit, mais l'homme a perdu sa spiritualité hein, à cause du péché qui est entré dans sa vie, à cause de la chute. Hein. La relation avec Dieu, qui est une relation qui est essentiellement spirituelle, eh bien, c'est brisé. L'homme a donc perdu cette spiritualité qui était originelle. Mais si le corps est semé naturel, il ressuscite spirituel. Ce qui signifie que notre nouveau corps, notre corps ressuscité, va être conduit par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, gouverné par l'Esprit. C'est l'Esprit qui va régner en nous, qui va vraiment régner dans toute sa plénitude. Il va dicter nos conduites, nos décisions. Lorsque Dieu a créé l'homme, les choses devaient en être ainsi. L'esprit de l'homme devait être tout en haut, celui qui gouverne tout l'être, hein, ensuite l'âme et puis le corps. Mais avec la chute, eh bien, il y a eu un inversement. Voilà. Hop, tout a basculé et puis finalement l'esprit s'est retrouvé plutôt en bas. Et puis ben, c'est l'âme et c'est le corps hein, qui gouverne l'homme. Mais la résurrection va nous libérer de cet état de fait. On deviendra alors corps spirituel. C'est quelque chose qui est merveilleux. En fait, on en goûte déjà les prémices au travers de la conversion à Jésus-Christ. Puisque lorsqu'un homme prend conscience de son péché et qu'il vient à Jésus-Christ qui pardonne, qui purifie, qui efface du péché, qui sauve, à ce moment-là, Dieu le fait naître d'en haut. Ça veut dire qu'il vient régénérer son esprit, il lui donne son esprit, l'esprit de Dieu. Par sa puissance, il ressuscite en quelque sorte son esprit qui était mort, hein, qui était coupé de Dieu. Il y a une régénération, une transformation intérieure qui fait que l'homme qui est repenti, qui a cru en Jésus-Christ, il n'est plus le même. Il est devenu enfant de Dieu. Autrefois, son esprit était séparé de Dieu et puis, oh, d'un seul coup, la communion est rétablie. Il est en parfaite communion avec son Dieu. C'est donc la conversion à Jésus-Christ par la repentance et la foi qui peut nous accorder les prémices de la résurrection. C'est cela qui fait qu'un homme repenti n'est plus le même. Il commence à être gouverné par son âme, et puis par la conversion, eh bien, il retrouve la communion avec son Créateur, et de nouveau l'Esprit eh bien, peut prendre la place au travers de l'Esprit Saint qui lui a été donné, et puis de nouveau il peut être conduit par l'Esprit et devenir un homme spirituel. Un homme spirituel. C'est-à-dire un homme qui est imprégné, qui est dirigé par l'Esprit de Dieu et qui est dans une communion spirituelle parfaite avec Dieu. Ça, c'est l'expérience que je vous invite à chacun à connaître en venant à Jésus. Mais notre corps animal reste naturellement indépendant de l'Esprit. Hein. C'est dans nos gènes, hein, c'est là. Hein. Et le chrétien qui est réconcilié avec le Seigneur, voilà, qui a goûté à l'Esprit de Dieu, qui est en communion avec lui, il sait aussi qu'il perd parfois sa communion, il sait qu'il retombe hein, bien bas. Il y a un combat intérieur, hein. L'âme reprenant souvent le dessus sur l'esprit. Hein. Voilà, un coup c'est l'esprit qui conduit, et puis un coup ben, c'est l'âme et le corps qui dirigent. Il y a ce combat. L'âme veut garder les rênes et se laisser conduire comme autrefois, par son corps et par ses passions. Si vous voulez prendre Romains 7, versets 15 à 20. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ici, c'est l'expérience de l'apôtre Paul qui nous démontre que le corps tente toujours d'avoir de l'emprise sur l'homme, même s'il est régénéré. Alors la victoire, elle est possible, Dieu soit loué, mais c'est graduel, c'est petit à petit, ça s'appelle la sanctification. Mais cette victoire, elle n'est jamais totale jusqu'à la résurrection. À la résurrection, alors ça l'est. Là, on entre dans une victoire qui est totale. La résurrection va nous libérer complètement et définitivement de cette lutte intérieure dans notre corps, notre âme et notre esprit. C'est merveilleux. C'est merveilleux quand on rame et on n'en peut plus de nos chutes et de nos rechutes et de nos rechutes. Se dire merci Seigneur, un jour, terminé. Pleine victoire au travers de Jésus-Christ. Le corps est semé naturel, il ressuscite corps spirituel. Ce qui signifie qu'à la résurrection, on va être pleinement, entièrement, totalement conduit par l'Esprit. Et il n'y aura plus aucun combat intérieur. Plus de déchirement, plus de tentation, plus de faiblesse morale. Mais on va vivre volontairement dans une dépendance et une totale consécration, sans réserve, à Jésus-Christ et à notre Dieu au travers de son Esprit. On va être parfaitement docile et parfaitement utile éternellement pour notre Dieu. Comme dit le cantique, quel bonheur ce sera quand Jésus reviendra. Et j'aimerais qu'on puisse voir un dernier attribut, c'est la conformité à Jésus-Christ. Versets 48 et 49, 1 Corinthiens 15, versets 48 et 49. Il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Paul nous dit ici que nous porterons l'image du céleste. Alors qu'est-ce que c'est que l'image du céleste? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est l'image du céleste. Il est l'image que nous allons refléter dans toute l'éternité. On va devenir semblable à Jésus. On a l'habitude de chanter ce cantique, « Te ressembler Jésus, c'est mon désir suprême ». Et donc, on tend vers cet idéal de jour en jour, mais on est obligé de reconnaître que il y a encore du travail, il y a encore de la distance. Mais au jour de son retour, au jour de la résurrection, eh bien, on va porter son image, l'image du céleste. Si vous voulez prendre 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Et aujourd'hui, même si nous avons fait la démarche de repentance, de foi en Jésus-Christ, même si nous lui avons donné notre vie, si nous sommes enfants de Dieu, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Personne ne peut voir l'image parfaite de Jésus-Christ en nous. Bien sûr, eh bien, on voit des traits de Jésus-Christ dans le caractère, dans la manière d'agir, mais ce n'est pas encore une image extérieure parfaite. Mais au jour de la résurrection, eh bien, ça sera. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Le retour de Jésus va manifester notre ressemblance à Jésus-Christ. À ce moment-là, eh bien, notre transformation, notre sanctification seront complètement achevées. Aujourd'hui, durant notre séjour sur terre, nous tous qui contemplons à face découverte le Seigneur, nous sommes transformés, il est dit, de gloire en gloire, en la même image. Et c'est vrai que plus on s'occupe du Seigneur, plus On veut l'écouter, on veut lire sa parole, on veut le prier, on veut rester avec lui. Et plus on s'approche de lui, plus on le contemple, on est transformé de gloire en gloire, à l'image du Seigneur. Il y a une transformation intérieure qui s'opère, qui se fait, c'est une réalité. Parce que c'est réellement par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ que nous sommes transformés en la même image. Ça, c'est la sanctification. Mais aujourd'hui, notre vision du Seigneur est souvent altérée par de multiples choses. C'est un combat, c'est une lutte pour tout le temps se focaliser sur le Seigneur, ne pas le perdre de vue. Et pour persévérer dans notre contemplation de sa personne, sans cesse il faut y revenir, il ne faut pas se lasser, il faut l'aimer lui en premier. Mais lors de son retour, quand Jésus va paraître, alors eh bien, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. On va le voir de nos yeux. Là, ça sera carrément différent. Il n'y aura pas d'effort à faire. Jésus sera devant nous. On va le voir de nos yeux. La contemplation sera directe, sans obstacle, parfaite. Et dans cette contemplation du Fils de Dieu, eh bien, on va être immédiatement transformé à sa ressemblance. Ça sera instantané. Tel qu'il est, nous serons aussi. Et alors, eh bien, nous serons rendus conformes au corps de sa gloire. Si vous voulez prendre Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et c'est ce jour-là que vraiment on va ressembler à notre frère. Bien qu'enfant de Dieu, on ne le porte pas aujourd'hui dans notre corps. Notre image extérieure est purement terrestre, charnelle, naturelle. Mais quand il paraîtra, il sera visible que nous sommes ses frères et sœurs célestes, semblables à lui. Notre lien avec Dieu, avec Jésus-Christ, sera manifesté et nous serons comme lui, comme lui. Alors, eh bien, pour conclure, la résurrection, c'est l'espérance chrétienne. C'est notre joie, notre bonheur, notre futur. Et la preuve de la réalité de cette espérance, eh bien, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Oui, il est ressuscité. Si vous voulez prendre 1 Corinthiens 15 pour terminer. 1 Corinthiens 15 et verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, les premiers fruits de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ça, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, est-il écrit dans l'Apocalypse. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'aurai part à la première résurrection? C'est la grande question. Vous savez, le vrai christianisme, c'est pas une formalité religieuse que l'on remplit deux fois par an, à Pâques et puis à Noël. Le vrai christianisme, c'est pas ça. Le vrai christianisme, c'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. C'est une réconciliation avec le Dieu que nous avons offensé. Le vrai christianisme, c'est une compréhension de son sacrifice. Jésus-Christ offert en sacrifice pour nos péchés. Eh bien ça, c'est quelque chose qui bouleverse une vie. Ça transforme une vie, on n'est plus le même. Dieu n'est plus une option. Dieu est la priorité, parce qu'on le connaît. Et imaginez ça, si vous ne le connaissez pas encore, mais que Dieu devienne d'un seul coup là, présent, eh bien ça bouleverse votre vie. C'est plus la même. C'est un demi-tour, c'est un changement, un bouleversement. C'est enfin une repentance sincère et une foi enfantine en celui qui a dit « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». C'est ça la conversion, c'est se placer entre les mains de Dieu avec une foi enfantine. « Seigneur, je crois. Je crois, oui, tu es ressuscité pour moi, tu es mort pour moi et tu vas me sauver. » Alors, est-ce que vous aurez part à la première résurrection? Parce que vous êtes vraiment disciples de Jésus. On va s'incliner dans la prière.